Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
On le surnomme parfois le Disney français. On lui doit la production de dizaines de séries, de films d'animation et de dessins animés. Dans ce secteur d'ailleurs, il a su se démarquer en imaginant des concepts qui pourraient séduire à l'international. C'était l'objectif dès le début, être regardé dans le monde entier. Challenge plus que réussi puisque un de ses dessins animés est aujourd'hui diffusé dans 150 pays. Présent sur les plateformes, nommé aux Oscars pour un film d'animation, mais surtout producteur de deux dessins animés qui ont marqué tous les enfants français dans les années 2000, Oggy et les cafards et les zinzins de l'espace. Faisons connaissance avec Marc Dupont-Aillas. Ce jour-là, je rencontre Marc Dupont-Aillas dans les locaux de Xylam, sa société de production, dans le 10e arrondissement de Paris. Au fond d'une cour pavée, j'ouvre une petite porte et découvre un immense espace illuminé de lumière par une verrière. Les bureaux font penser à une immense ruche, ça grouille de monde. Et moi, j'ai rendez-vous au 2e étage où je retrouve Marc Dupont-Aillas dans son bureau. La conversation débute par la création du studio Xylam.
En fait, j'ai travaillé pendant 8 ans, de 90 jusqu'en 98, pour le groupe Gaumont, où j'ai créé des nouveaux métiers à l'intérieur du groupe, très orientés autour de la production, puisque j'ai co-créé Gaumont Télévision pour l'activité de production de séries, puis avec Gaumont Multimédia, à partir de 94-95, on s'est occupé d'Internet, ce qui était un peu nouveau à l'époque, et puis un peu de jeux vidéo, et puis surtout l'animation, qui était un métier qui n'existait pas ou qui n'existait plus depuis très longtemps chez Gaumont. Et donc, on a créé cette division, qui est devenue tout de suite un très très gros succès international, notamment avec les Zinzins de l'espace, qui a été un peu un phénomène à la fois en France, mais aussi aux États-Unis et ailleurs, et avec un principe de dessin animé très impertinent, avec pas mal d'irrévérence. Et puis en 98, pour tout un tas de raisons, j'ai souhaité devenir indépendant. Donc en fait, j'ai racheté à Gaumont la division d'animation que j'avais créée pour eux, et que j'ai rebaptisé du nom de Xylam, et avec laquelle j'ai pu poursuivre l'aventure.
En France, c'était quoi l'état du dessin animé globalement? Est-ce qu'il y avait des dessins animés vraiment français? Ou est-ce que la production française était assez pauvre et on importait beaucoup de dessins animés? Enfin, c'est quoi le contexte à l'époque?
En fait, la naissance d'un vrai secteur de l'animation a pris quelques années à se construire. Ça a commencé avec le plan Jack Lang en 84 ou 86, je me souviens plus, qui a commencé à donner des moyens pour pouvoir créer. En fait, avant, c'était très très artisanal. Voilà, donc quelques entreprises commencent à structurer le secteur, mais au début des années 90, ça reste très très sage. On est plus dans des adaptations de contes. En fait, on fait beaucoup des dessins animés qui rassurent les parents en les montrant aux enfants. Donc on est plus du côté des contes du Père Castor ou de ce genre de choses.
Père Castor, raconte-nous une histoire. Même deux histoires.
Voilà, il y a assez peu de choses très insolentes. La comédie n'est pas d'un niveau très, très sophistiqué. Avec mes compères de l'époque, en 93-94, quand on commence à s'intéresser à l'animation, on voit que naissent aux États-Unis une tendance complètement nouvelle et assez radicale avec la chaîne Nickelodeon. Et le slogan de la chaîne Nickelodeon, c'est « la télé interdite aux parents ». Voilà. Et donc ça dit tout de l'irrévérence, de la liberté créatrice tout d'un coup qu'on trouve. Et c'est ça qui nous a inspiré. Et on s'est dit, il faut qu'on aille dans ce sens-là. Et on a lancé les Zinzins de l'espace, qui a été vraiment, qui a fait éruption sur le marché comme un ovni, un objet incroyable. France Télévisions prend un risque assez surprenant en nous accompagnant là-dessus. Puis on les accompagnait par une chaîne allemande, etc. Parce que ça coûte très très cher, ces dessins animés. Et à la surprise générale, ce dessin animé fait un succès monumental en France. Enfin, il est même devenu culte aujourd'hui. Là, tous les trentenaires parlent encore avec beaucoup d'émotion de ce dessin animé. Ça lance, en tout cas, un genre assez nouveau. Et puis derrière, effectivement, on enclenchera avec un autre succès encore plus spectaculaire à l'échelle mondiale qui sont Oggy et les cafards.
Marc Dupontavis parle de l'irrévérence des dessins animés qu'il crée. Et cette irrévérence relève d'un registre comique bien précis. C'est le slapstick, un terme qui vient de l'anglais et qu'on pourrait traduire par « bâton qui frappe ». Pour mieux comprendre, on peut penser à Titi et Gros Minet, par exemple, une production américaine qui use régulièrement du slapstick quand Mémé course Gros Minet avec son parapluie typiquement. Mais comme le dit Marc Dupontavis, ce genre comique est très populaire aux États-Unis, mais pas tellement en France.
Bah d'abord, c'est pas qu'on l'aime, mais c'est qu'on ne savait pas le faire. Puisque les Tex Avery, les Chuck Jones, enfin tous ces grands noms de l'animation américaine, qui ont fait la gloire de tous les courts-métrages d'animation, des films d'animation des années 40 aux années 60 aux États-Unis, sont des œuvres qui sont restées abondamment visionnées, consommées par le spectateur français. Tom et Jerry, aujourd'hui, ça continue à très très bien marcher hein, sur les chaînes françaises. Donc, c'est pas qu'on n'aime pas ça en France, mais c'est qu'on n'a pas de ce savoir-faire. C'est un savoir-faire américain. Or, moi, ce que j'observe quand je me lance dans le dessin animé, c'est que les États-Unis ont arrêté de produire ce genre de choses dans les années 70, pour tout un tas de raisons compliquées, mais ils ne produisent plus ce qu'on appelle le slapstick. Alors, le slapstick, c'est fondamentalement de la comédie qui repose sur l'antagonisme de deux ou de trois personnages qui pratiquent plutôt l'art de la poursuite, voire de la baston, plutôt que celui du dialogue. Voilà, c'est souvent des choses muettes, mais du coup, ça crée des animations extrêmement dynamiques. Les Américains, d'ailleurs, appellent ça beaucoup de « physical comedy ». C'est un peu inspiré de loin de la Commedia dell'arte, pour revenir en Europe il y a longtemps. Ça vient du muet américain, hein, les Charlie Chaplin, les Harold Lloyd, enfin, tous ces grands auteurs qui fonctionnaient, qui étaient des acrobates, des gens qui avaient une capacité physique incroyable. Voilà. Or, moi, ce qui me plaît dans ce genre-là, c'est que c'est vraiment une comédie universelle. La comédie à la française, telle qu'on la connaît au cinéma, comme toujours, les comédies, en général, sont des choses qui ne s'exportent pas beaucoup, parce qu'elles sont très culturelles, très localisées, très dialoguées. Là, tout d'un coup, on a affaire à une comédie qui est très visuelle et dont les ressorts comiques, en fait, plaisent au monde entier. Et puis, c'est très intergénérationnel. Nos dessins animés, plus de 40% de notre audience sont des adultes. Voilà, donc ce côté intergénérationnel, universel, et puis c'est des œuvres, quand elles sont bien faites, elles ont une durée de vie incroyable.
Et ce qui fait la force de ces dessins animés, c'est, vous l'avez dit, le fait que ça soit muet aussi et qu'on se repose uniquement sur le corps. C'est une des bases de Oggy et les cafards aussi. Comment on fait en fait pour créer un dessin animé sans dialogue? Sur quoi on s'appuie? Sur quoi on va jouer pour garder l'attention de l'enfant et puis des adultes aussi?
En fait, ça tient beaucoup. Il faut qu'il y ait un concept opérationnel pour nourrir beaucoup d'épisodes. Dans l'occurrence, là, c'est vraiment l'opposition d'un chat et de trois cafards qui viennent rendre sa vie misérable. Donc, vous bâtissez d'abord un concept d'antagonisme fort, évident, compréhensible, qui n'a pas besoin de grande explication, hein, c'est des choses assez simples. J'habite dans une maison, j'ai trois cafards qui viennent me faire la misère et j'en peux plus et j'essaie de me débrouiller avec ça. Ça, c'est la première base. La deuxième, il faut que vous avez une caractérisation sur vos personnages. Il faut que ces personnages aient à la fois beaucoup de caractère, une très forte personnalité. Même si ce sont des méchants comme les cafards, il faut quelque chose qui nous séduise et qui nous plaise chez ces personnages-là. Et puis, s'agissant de Oggy, c'est un personnage qu'on a bâti comme une victime permanente. On vit tous dans les tracasseries du quotidien. Nos cafards, à nous, ce sont nos tracasseries de la vie quotidienne. Donc évidemment, ça crée une empathie très forte sur le personnage d'Oggy. Ça, c'est un élément très important. Et ensuite, comme ce sont des formats assez courts, de 7 minutes, il faut être très efficace dans la construction d'histoire, qui doit être extrêmement simple. L'histoire et la comédie naît du dessin, ce qu'on appelle le storyboard dans notre jargon à nous. Et c'est vraiment parce que ce sont beaucoup des gags visuels. Donc vous avez une histoire très bien structurée, qui va être servie par des gags visuels qu'on essaye de rendre vraiment hilarants, mais qui chaque fois sont construits autour de la forte personnalité de nos héros. Et tout ça, du coup, on s'aperçoit que quand on travaille plus en dialogue, en fait, il faut faire parler les corps. Et donc c'est ça qui rend la chose universelle, parce que tout le monde entier peut comprendre de quoi il s'agit, sans avoir besoin de passer par le dialogue ou par des références culturelles ou des choses comme locales ou des choses comme ça. Donc ça nous a pris un peu de temps hein, pour apprendre, maîtriser ce métier. C'est une série qui a réinventé le slapstick, qui était un genre qui avait totalement disparu des écrans. Alors, Jean-Yves Rimbaud, qui a vraiment créé tout l'univers de Guy et les Cafards, qui était un créateur génial, qui on devait déjà la création des Zinzins de l'espace, il fallait que, contrairement au personnage de Tom dans Tom et Jerry, là on repart sur un chat de nouveau, mais là on voulait un personnage très débonnaire, très, très humain. Il est très anthropomorphe, il a sa chambre, il a sa maison, il a sa cuisine, il a ses ustensiles. Dans un personnage auquel on s'identifie extrêmement facilement. A l'inverse, on voulait un trio de cafards et pas juste une souris et un trio de cafards qui ont chacun des grosses personnalités. Et l'idée, c'était de proposer un univers à la fois, entre guillemets, réaliste dans la structure de l'habitat, c'est-à-dire qu'il habite une maison dans un lieu assez pavillonnaire, très classe moyenne, ce sont des choses universelles qu'on retrouve partout. En revanche, il y a deux choses qui font exploser ce cadre réaliste. D'une part, les couleurs. Qui sont alors là pour le coup qui sont très très pop, très fortes, assez flashy. Le frigidaire rose, le pavement de la cuisine noir et blanc. Il y a des travaux sur les couleurs pour rendre ça. Moi j'insiste beaucoup quand je travaille sur les dessins animés, il faut vraiment qu'on ait une identité visuelle, colorée, chromatique, très très forte pour accrocher le spectateur. Et on est bien, ça apportait beaucoup de modernité aussi par rapport au slapstick traditionnel. Et l'autre chose qui fait exploser les cadres, c'est que dans le slapstick, tout est possible. Donc tout d'un coup, si on a besoin que notre salon fasse 300 mètres carrés alors que normalement il en fait 20, et ben voilà. Donc on écarte les murs, on allonge les escaliers, on rend tout un peu excessif parce que ça raconte la perception des personnages au moment de l'action, au moment où ils sont.
Et dans les noms aussi, il y a une histoire derrière ces noms qui ont été choisis à la fois au Guy, mais aussi les Trois Cafards.
Ouais.
C'est des goûts personnels, ces noms que vous avez ramenés ?
C'était pareil, c'était avec Jean-Yves, de la même façon que sur les Zinzins, on avait été carrément chercher Iggy Pop pour faire la chanson du générique. Sur Oggy, on voulait garder un peu cette référence assez rock. Et Jean-Yves était un grand fan des Ramones à l'époque. Et donc il a eu cette idée formidable que j'ai adoptée tout de suite de donner les trois prénoms des Ramones, Joey, Didi et Marky.
Alors même si le slapstick est avant tout un genre comique, il n'en reste pas moins qu'il s'adresse à des enfants. J'ai donc voulu demander à Marc Dupont-Avis si derrière cet univers très drôle, il cherchait quand même à partager quelque chose d'éducatif aux très jeunes téléspectateurs qui regardent Oggy ou les Zinzins de l'espace.
D'abord, quand on produit des œuvres pour les enfants, on ne peut jamais s'abstraire de la réflexion des valeurs qu'on transmet. On peut être plus ou moins subtil dans ce qu'on essaie de transmettre. Moi, une des choses que j'aime dans le slapstick, c'est un peu le mythe de Sisyphe, c'est quand vous tombez, vous pouvez toujours vous relever. Il y a cette idée de toujours essayer, de toujours reprendre. Le slapstick repose sur un mécanisme de répétition où on recommence, on recommence, on recommence. Il y a quelque chose de... Moi, je trouve que si nos personnages sont parfois des victimes comme Oggy, c'est des personnages qui se redressent toujours. Ils ont toujours un courage incroyable, ces personnages-là. Alors, il y a autre chose dans slapstick que j'adore, c'est le monde dont rêvent tous les enfants. Pourquoi ? Parce que c'est un monde où on ne se fait jamais mal, où tout est possible, on peut faire toutes les bêtises possibles et imaginables, et on ne se fait jamais mal. Voilà, donc évidemment, pas un monde réaliste, on ne demande pas aux enfants de se comporter comme nos personnages, qui seraient évidemment physiquement violents, mais ce n'est pas ça l'idée. Donc il y a quelque chose du défouloir, de se réfugier comme ça dans un monde où on ne se fait jamais mal. Voilà, j'aime beaucoup ces idées-là que je trouve très très jolies, avec cette idée de ce courage de reprendre toujours, même quand on tombe, même quand on est en échec. Il y a quelque chose d'assez fort dans le message du slapstick.
Et d'un point de vue de la narration, je me souviens, je parlais avec Bernard Derriès, qui a beaucoup travaillé avec le Japon au début des années 80-90, et qui me disait ce que la France a apporté, ou en tout cas ce que notre vision a apporté aux Japonais, c'est l'idée d'une narration où on n'est pas obligé de raconter tout sur les personnages. Les Japonais avaient cette tendance à vouloir remettre les personnages dans une trajectoire de vie hyper logique où on explique tout, etc. Lui, il me dit, on n'avait pas besoin de faire ça, on laissait des points d'interrogation, des mystères, etc. J'avais envie de vous entendre sur la force de la France dans le dessin animé. Est-ce que la France se distingue des Américains, des Japonais sur quelque chose dans le dessin animé, dans sa production ?
La France a un avantage considérable, j'ai envie de dire, bizarrement, précisément parce qu'elle n'a pas de tradition dans l'animation. Elle a une forte tradition dans le dessin, mais ou dans la peinture évidemment, dans toutes les arts graphiques, mais elle n'a pas de tradition d'animation, puisque, à l'exception de quelques rares grands auteurs comme Paul Grimaud et de quelques artisans, c'est un métier qui n'existait pas, en tout cas un secteur au sens économique du terme qui n'existait pas. Les Japonais, quand ils font de l'animation, ils font des choses très japonaises. Les Américains, quand ils font de l'animation, ils font des choses très américaines. La force de la France, en fait, c'est d'être un creuset qui a accepté et grandi avec ses influences à la fois américaines et japonaises, qui les a en quelque sorte digérées, complétées, les a mariées avec sa propre culture graphique qui, elle, pour le coup, est ancestrale, et qui fait que finalement les univers de l'animation française sont des univers très singuliers, avec une forte identité, qui cherchent peut-être moins que les Américains et les Japonais à répéter les succès passés. Par exemple, on voit toutes les sitcoms de animés américains, bah, ils sont tous bâtis grosso modo par rapport au modèle des Simpsons. Il y a quelque chose de la reproduction. Les Français, ils sont incroyables, et c'est aussi pour ça que souvent les grandes majors américaines viennent chercher des talents français. On a une liberté, et j'ai plus encore qu'une liberté de création, un ardent désir de renouvellement dans tout ce qu'on fait. Et peut-être qu'on est plus libre, alors parfois on l'est trop, mais peut-être qu'on est plus libre, qu'on s'affranchit plus facilement de certaines grammaires imposées.
Alors si Marc Dupontavis connaît très bien le monde du dessin animé, très très bien même, récemment c'est lui, sa propre personne, qu'il a cherché à mieux comprendre. En 2022, Marc Dupontavis écrit sa biographie, Destin animé. Il raconte son parcours pour tenter de dégager une logique sur le choix de sa trajectoire de vie liée au dessin animé.
D'abord, j'ai mis du temps à comprendre. Dans un premier temps, je pense que j'attribuais mon goût pour le dessin animé plus à une passion pour la matière picturale en général, parce que je suis quelqu'un qui aime tout ce qui est dessin, peinture, et de manière générale, les arts visuels sont des choses qui m'intéressent énormément. Puis en creusant, évidemment, on va fouiller des choses plus personnelles dans l'enfance. En faisant du dessin animé, j'ai voulu rendre aux enfants le rire que moi, j'avais pas forcément pu avoir quand j'étais enfant. Voilà. De toute façon, pour faire du dessin animé, il faut avoir gardé une connexion un peu particulière avec l'enfance. Quand on garde une connexion particulière avec l'enfance, qui est entre guillemets un peu anormale, puisqu'on est censé, en devenant adulte, un peu tourner la page, donc c'est forcément qu'il y a quelque chose d'irrésolu dans l'enfance. Et le dessin, évidemment, est un médium qui permet sans doute de réparer beaucoup de choses et de raconter des histoires aussi. Je veux dire, de toute façon, les métiers de l'art et de la création sont des métiers qui tirent toujours d'un instinct de protestation. Le monde tel qu'il est ne nous suffit pas, il faut en inventer un autre pour faire passer des choses.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Club Dessin Animé. Pour ne pas manquer les prochains invités, abonnez-vous à L'été dans vos oreilles, le podcast des séries d'été de 20 minutes. C'est gratuit et disponible sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site de 20 minutes, bien évidemment. À très vite.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.